Un homme plongé dans la boue n'a pas besoin qu'on vienne lui faire des discours sur la sainteté de la boue. Il a plutôt besoin d'une main compatissante à laquelle il peut s'accrocher pour sortir de la boue. Nous sommes cette main compatissante.
Encore une fois, je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et très rapidement, je vous invite à lire avec moi dans Jean chapitre 17. Nous allons lire le verset 11 et puis du verset 20 au verset 23. Jean chapitre 17, verset 11, nous sautons au verset 20 à 23. La Bible dit ceci au verset 11. C'est Jésus-Christ qui parle, qui adresse une puissante prière d'intercession en faveur de l'Église au Père. Et il dit au verset 11 que je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Eux, ce sont les disciples, ils sont dans le monde. Et moi, je vais au Père. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront à mon nom par leur parole.
Amen.
Afin qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin qu'ils soient aussi un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Nous poursuivons encore aujourd'hui notre enseignement sur ce que je préférais à appeler ce matin l'école de l'unité. Je vous ai dit dimanche passé que nous allons prendre quelques temps pour nous parler de l'unité. Ce que j'ai appelé le dimanche passé, l'église locale et la loi de l'unité. Et ce que je préfère appeler ce matin, vraiment l'école de l'unité. Nous entrons dans l'école de l'unité pour apprendre à vivre dans l'unité, pour apprendre à marcher dans l'unité, pour apprendre à travailler dans l'unité. Et l'objectif que je poursuis à travers cet enseignement, c'est de vous encourager, vous, mon frère, ma sœur, de nous encourager mutuellement à comprendre que nous devons marcher dans l'unité, à comprendre que nous devons développer la culture de l'unité. Pour la simple raison que lorsque un peuple est uni, Dieu est capable de réaliser avec lui des choses extraordinaires.
Amen.
Alors, le secret pour vivre du succès, le secret pour expérimenter des choses grandes, des choses grandioses dans nos vies, ce secret réside dans le travail en équipe, dans une marche, dans l'unité. Raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui, dans le monde qui nous entoure, les grandes compagnies s'associer pour former encore des compagnies beaucoup plus grandes. Les grandes banques s'associer parce que ces gens ont compris qu'il y a un secret dans l'unité, il y a un secret dans l'association. Dans le texte que nous venons de lire, un très beau texte, je vous l'ai dit que il s'agit ici d'une puissante intercession de notre Seigneur Jésus-Christ. L'intercession, vous savez que c'est une prière qu'un homme adresse à Dieu en faveur de quelqu'un d'autre. Alors ici, Jésus n'écrit pas pour lui, mais il adresse à Dieu une puissante prière en faveur de ses disciples et en faveur de tous ceux qui vont croire en son nom à travers la prédication de ses disciples. Donc, en faveur de Jean, de Paul, de Jacques, mais aussi en votre faveur et en ma faveur.
Amen.
Et nous lisons dans cette prière au verset 11, Jésus-Christ demandait au Père de garder les disciples pour qu'ils soient un. Garder les disciples pour qu'ils soient un. Ici, j'attire votre attention sur le verbe garder. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ va demander au Père de nous garder pour que nous soyons un? Première chose à noter, c'est que nous avons vraiment besoin du secours de Dieu pour que nous puissions vivre dans l'unité. Nous avons besoin du secours de Dieu pour que nous puissions marcher dans l'unité. Nous avons besoin du secours de Dieu pour que nous puissions travailler dans l'unité. Pourquoi? Le verset 15 répond à cette question. Au verset 15 de notre texte, la Bible dit que « Je ne te demande pas de les retirer du monde. Je te demande de les protéger du malin. » Dans d'autres versions, « Je te demande de les protéger du mauvais. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous avons besoin du secours de Dieu à cause du malin qui rôde autour de nous. Et vous savez que l'objectif du diable, c'est toujours de diviser. Dès que le diable a compris que avec un peuple uni, Dieu peut faire des grandes choses, il vient lui semer la division. Il vient planter les germes de la division afin d'empêcher le peuple de Dieu de réaliser la vision de Dieu sur la terre. C'est la raison pour laquelle lorsque le maître prie, il commence par préciser que Père très saint, garde-les en ton nom pour qu'ils soient un. Nous avons besoin d'être gardés par Dieu. Et nous devons chercher ce secours de Dieu dans des prières intenses comme notre maître l'a fait. Frères et sœurs, priez pour l'unité. Lorsque vous priez chez vous, à la maison, dans votre dévotion personnelle, prenez toujours même une minute pour prier pour l'unité de l'Église, pour prier pour l'unité de l'Église à travers le monde, pour prier pour l'unité des peuples, comme Papa Pascal venait de le dire tantôt quand il dirigeait la prière, que si nous assistons aujourd'hui à des catastrophes à travers le monde, c'est parce que les gens ne sont pas unis. C'est parce que les gens sont divisés, divisés à travers leur idéologie, divisés à travers leurs principes de vie, à travers leurs actions. Mais ce qui fait que les gens vont commencer à s'opposer afin que chacun s'affirme dans ce qu'il fait ou que chacun puisse réussir à faire passer son point de vue. Si les autres n'approuvent pas ce que moi je dis, il faut que je les élimine. Tout ça, c'est quoi? Ce sont les indices qui prouvent que le monde est en déficit profond. En ce qui concerne l'unité, ce qui est grave encore, c'est que même dans les églises, on observe un déficit profond en ce qui concerne l'unité. Mais Dieu veut que nous soyons dans l'unité. Au verset 20, la Bible dit que ce n'est pas pour eux seulement que je t'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin qu'ils soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Une deuxième chose que j'aimerais souligner ici, à travers cette prière du Maître, c'est que lorsque nous nous vivons dans l'unité, cette unité va permettre aux païens de donner aussi leur vie à Jésus-Christ. Cette unité va pousser ceux qui ne connaissent pas Dieu de s'engager aussi à connaître Dieu, juste en regardant la façon dont nous vivons entre nous, les enfants du royaume. Vous vous imaginez, frère, que si un homme qui ne connaît pas Dieu entre dans une église comme celle-ci, et dès qu'il arrive à la porte, il trouve qu'il y a deux papas qui sont en train de se chicaner, et il trouve au coin de la salle deux mamans qui sont en train de se tirer les cheveux, et deux jeunes qui sont en train de s'injurier à haute voix. Si je vous pose la question de savoir est-ce que cet homme ou cette femme peut adhérer à cette église-là pour prier ou y rester, la réponse va être non. Nous sommes sous la loupe des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils nous observent dans le mini détail de tout ce que nous faisons. Il y en a qui nous observent pour se moquer de nous, mais il y en a d'autres qui nous observent parce qu'ils veulent voir clair pour qu'ils donnent aussi leur vie à Jésus-Christ. Et lorsqu'ils nous observent et qu'ils découvrent que nous, nous marchons dans l'unité, nous, nous vivons dans la communion, nous nous aimons réellement, ils vont nous envier et ils vont accepter que oui, réellement, Jésus-Christ est le Seigneur du ciel et de la terre. C'est ce que le maître souligne ici, que par notre unité, nous allons amener le monde à croire en son Saint-Nom. Mon frère, ma sœur, la Bible dit que nous devons nous efforcer pour garder le lien d'unité. Le lien d'unité n'est pas un automatisme. Il faut un effort pour faire des sacrifices, un effort pour abandonner certaines choses, un effort pour dire que mon frère est difficile, mais il faut quand même que je marche avec lui parce qu'il est mon frère. Et lorsque nous aurons déployé ces efforts, lorsque nous aurons appris à vivre en unité ensemble, eh bien, le monde qui nous observe va comprendre que oui, réellement, ces gens-là appartiennent au peuple de Dieu. Et ce monde peut aussi lever l'option de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 22, il dit que « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous. » Verset 23, « Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu m'as aimé et tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Je vous l'ai dit dimanche passé, il y a quelque chose qui a frappé mon attention dans l'étude de ce texte. Nous avons quatre versets que nous avons lus. Nous avons lu le verset 11, le verset 20, 21, 22, 23 par là. Mais dans ces quatre versets, le maître utilise à cinq reprises l'expression « qu'il soit un », c'est-à-dire l'expression de l'unité. Et la dernière fois qu'il en parle au verset 23, il mentionne « qu'il soit parfaitement un comme nous ». Donc, l'unité que Jésus-Christ attend de nous, c'est une unité semblable à l'unité qui existe entre lui et le Père. Et là, c'est une unité parfaite. C'est que Dieu a besoin que nous puissions vivre dans l'unité parfaite. Et le fait que le maître reprenne à cinq reprises dans quatre versets ces mots qu'il soit un, cela nous enseigne, nous révèle la profonde pensée de notre Seigneur Jésus-Christ concernant l'unité. Ça nous révèle que Dieu aime l'unité. Dieu aime voir ses enfants vivre dans l'unité. Dieu aime voir ses enfants marcher dans l'unité. Dieu aime voir ses enfants travailler dans l'unité. Parce qu'il sait très 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 bien que c'est avec les disciples unis que moi Dieu, je serai capable de réaliser des choses extraordinaires sur la terre. Donc, nous sommes encouragés en tant qu'église, nous sommes encouragés en tant qu'enfants du royaume à observer la loi de l'unité afin que nous puissions réaliser la vision de Dieu dans cette ville. Je vous encourage mon frère, peu importe ce qu'il vit. Je vous encourage, ma sœur, peu importe votre nature, je vous encourage à faire un effort pour développer le souci de vivre en unité, pour développer la culture de vivre en unité avec votre frère, vivre en unité avec votre sœur, pour la simple raison que nous, nous appartenons à un autre royaume. Le maître disait que tout royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Or, nous, nous appartenons à un seul royaume et parce que nous sommes membres d'un seul royaume, nous n'avons pas de choix que de marcher dans l'unité. Nous n'avons pas de choix que de vivre dans l'unité. La loi de l'unité, j'ai commencé à vous en parler dimanche passé, au sein d'une église locale, implique d'abord l'unité de l'esprit. Je souligne bien, la loi de l'unité implique d'abord l'unité de l'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, il faut savoir que sur cette terre, nous avons affaire à deux clans d'esprit. Il n'y en a pas trois. Le premier clan, c'est le clan de l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et le deuxième clan, c'est le clan de l'Esprit de l'ennemi. Tout homme qui circule ici est soit influencé par le clan de l'Esprit de Dieu ou le clan de l'Esprit de l'ennemi. Mais il y a unité spirituelle lorsque une communauté est animée par un même esprit et obéit aux ordres de cet esprit, marche dans la direction que cet esprit donne. Ça peut être un esprit diabolique. Lorsque vous trouvez des méchants, des tueurs, vous trouvez des sorciers et des gens qui appartiennent à des sciences occultes, ils sont unis, mais parce qu'ils sont conduits dans leur esprit et par leur esprit. Quant à ce qui nous concerne, nous les enfants du royaume, nous avons besoin d'être unis spirituellement. Et pour que nous soyons unis spirituellement, nous devons tous être animés par un même esprit, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Et nous devons tous obéir à la loi de l'Esprit de Dieu et marcher dans la direction que l'Esprit de Dieu nous donne. Il y a dans Ézéchiel un bon texte que j'aime lorsque vous lisez Ézéchiel chapitre 1er, je suis sûr, chapitre 1er. Le prophète parle ici de quatre êtres vivants et il dit quelque chose de très important au verset 12, Ézéchiel chapitre 1, verset 12. Il dit que chacun de ces quatre êtres vivants, dont il fait mention au verset 5, il dit, au centre encore apparaissaient quatre êtres vivants dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Mais au verset 12, il dit que chacun marchait droit devant soi. Ils allaient, au pluriel, les quatre êtres vivants, ils allaient où l'esprit les poussait à aller et ne se tournaient point dans leur marche. Pour dire quoi? Pour dire que lorsque vous observez ces quatre êtres vivants, vous allez découvrir qu'ils vivaient dans une parfaite unité spirituelle. Pourquoi? Parce que tous suivaient la direction de l'esprit qui les conduisait ou qui les guidait. Au sein de l'église locale, nous parlerons de l'unité spirituelle que dans la mesure où nous tous, nous nous laissons guider par le Saint-Esprit de Dieu, dans la mesure où nous tous, nous obéissons à la loi du Saint-Esprit de Dieu. Paul dit dans Corinthiens, c'est un texte que je vous ai cité dimanche passé, il dit que nous avons en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons été baptisés dans un seul esprit. C'est-à-dire que nous avons tous reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu, lorsque nous avons décidé de donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Je répète, lorsque nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie pour devenir enfants de Dieu, Dieu nous a scellés du Saint-Esprit. Pour la simple raison que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu ici, c'est qui ont reçu Jésus-Christ. Mais vous ne pouvez pas recevoir Jésus-Christ en chair comme lorsqu'il était chair. Aujourd'hui, recevoir Jésus-Christ, c'est recevoir le Saint-Esprit. Donc, lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit de Dieu dans votre vie, alors la parole vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En d'autres termes, si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être compté parmi les enfants de Dieu. Mais si vous êtes compté parmi les enfants de Dieu, c'est que réellement, vous avez reçu le Saint-Esprit de Dieu. Or, nous tous tels que nous sommes là, si je vous pose la question, vous allez attester que moi, je suis un enfant de Dieu. C'est vrai, vous dites la vérité. Vous êtes un enfant de Dieu, cela implique que vous avez reçu le Saint-Esprit de Dieu pour que vous soyez ainsi qualifiés à devenir enfants de Dieu. Mais comprenez, frère, que le Saint-Esprit que frère Papy vous avez reçu pour être appelé enfant de Dieu, c'est le même Saint-Esprit que pasteur James a reçu pour être appelé enfant de Dieu. C'est le même Saint-Esprit que Guy Bosé a reçu pour être appelé enfant de Dieu. Donc, nous avons tous reçu un même esprit. À cause de cela, nous sommes unis spirituellement. Si nous observons nous tous la direction que nous donne le Saint-Esprit de Dieu. Et cette unité spirituelle, c'est la condition sine qua non qui rend possible toutes les autres formes d'unité au sein de l'Église. Donc, il est très important que les enfants de Dieu comprennent que tout commence par l'Esprit. Dieu a d'abord créé l'Esprit de l'homme avant de créer l'homme. Et dès qu'il y a une parfaite unité au niveau de l'Esprit, c'est que les autres choses deviennent faciles à réaliser. Je vous encourage alors, frères, à rester fidèles à ce que le Saint-Esprit vous dit.
Amen.
Je vous encourage à obéir à ce que la parole de Dieu nous dit.
Amen.
Parce que c'est la parole de Dieu qui est vie et qui est esprit.
Amen.
Très important. La loi de l'unité au sein de l'église locale implique ensuite l'unité de la foi. Il y a unité de la foi lorsque tous les membres d'une même communauté croient tous et ont tous la même compréhension des vérités fondamentales de leur croyance. Nous sommes une église locale. Pour que nous puissions parler de l'unité de la foi, il faut que nous ayons nous tous les mêmes croyances. La Bible a déclaré que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Or, aujourd'hui, nous vivons à une époque où plusieurs églises sont menacées dans la pureté de leur conduite et dans la pureté de leur doctrine. Même si nous tous nous sommes chrétiens, plusieurs églises aujourd'hui sont vraiment menacées. Je vais vous donner un exemple, même un témoignage de notre sœur Véronne. Je ne sais pas si elle est là où elle est au travail, qu'elle m'a raconté un jour. Je l'ai déjà dit à l'église que lorsqu'elle venait d'arriver ici au Québec, à Montréal, il y avait dans l'église qu'elle fréquentait une autre église qui était propriétaire du lieu, qui priait aussi le matin. Et l'église qui était propriétaire du lieu avait organisé un réveillon de fin d'année, alors que l'église à la sœur Véronne n'avait pas été l'activité. Comme elle venait d'Afrique, elle avait la chaleur, elle tenait à tout prix à assister à ce réveillon. Et elle a décidé d'aller se joindre à cette église-là. Lorsque le service a commencé, on a fermé la porte à clé. Alors, on a adoré, on a loué, tout allait bien. À un moment donné, il fallait faire la prière de consécration pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Et la porte bien barricadée, le pasteur a commencé à prier, en commençant par sa propre femme. Alors, pour lui donner le Saint-Esprit, le pasteur boxait la femme, il tapait, il l'a soulevé, il l'a balancé dans tous les genres. Eh bien, après, c'était terminé, il prend un autre membre, il frappe sérieusement. Là, la sœur Véronne, là où elle était, elle a commencé à imaginer son tour. Comment elle allait passer entre les mains de ce pasteur boxeur. Mais elle a commencé à intercéder, dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux me libérer de ça. Voilà que Dieu va écouter sa prière. Que la sœur qui avait les clés de la porte, elle va être appelée la première. Et lorsqu'elle est allée se faire boxer, elle a laissé la clé sur la table. Et là, Véronne a pris la clé. Et Dieu lui a fait grâce, c'était un trousseau avec plusieurs clés. La première qu'elle a choisie, c'est celle qui ouvrait la porte. Et là où met dans la serrure, elle a tourné, elle a ouvert. Elle s'est sauvée. Et pour rentrer à la maison, elle a dû appeler la police. C'est la police qui l'a reconduite à la maison. Le vrai problème, c'est que il n'y avait pas d'unité de foi. Bien sûr, frères et sœurs bien-aimés, nous pouvons dire que nous croyons en Jésus-Christ. Mais on doit observer les pratiques et même la compréhension de ce que nous lisons dans la Bible pour dire que nous marchons ensemble ou nous ne marchons pas ensemble. Parce que dès qu'il n'y a pas au sein d'une communauté une unité de la foi, c'est clair que cette communauté est vouée à se diviser, à se séparer. Je l'ai dit dimanche passé et je le dis encore, il y a plusieurs églises chrétiennes. Il y a plusieurs doctrines, il y a plusieurs enseignements. Mais si Dieu nous a mis, nous, ensemble, si Dieu nous a ouvert l'esprit, il nous a fait comprendre la Bible selon sa grâce. Et nous faisons le ministère selon la grâce de Dieu. Lorsque vous allez ailleurs, vous allez visiter un frère ou une sœur, ou vous visitez un prédicateur dans le banc, il y a beaucoup de prédicateurs dans le banc. Lorsque le pasteur prêche, quand vous vous retirez, lui appelle, il est prédicateur au téléphone. J'ai donné des exemples dimanche passé, des exemples très poignants. J'ai donné l'exemple de quelqu'un qui vous appelle pour dire que non, la Sainte Seine ne peut se célébrer que la nuit. La Bible ne le dit nulle part. Quelqu'un qui vous appelle pour dire que non, si vous ne parlez pas en langue, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. La Bible ne le dit pas nulle part. Quelqu'un qui vous dit, comme c'est que notre sœur Sylvie Mendo a vécu à Dallas, que pour avoir le Saint-Esprit, vous devez payer 100$, vous devez payer 200$. Ça, c'est l'esprit de Bar Jésus qui avait besoin qu'on lui donne ce pouvoir pour que celui, sur qui il va prier reçoive le Saint-Esprit, mais ce qu'il avait oublié de dire à Pierre, c'est que quand il va recevoir le Saint-Esprit, il peut me donner de l'argent à mettre dans la poche. Or, la Bible dit que vous avez reçu gratuitement, vous devez donner gratuitement. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que après l'unité de l'esprit, nous devons marcher dans l'unité de la foi. Et marcher dans l'unité de la foi, c'est avoir les mêmes croyances. S'il vous arrive que quelqu'un vous apprenne quelque chose, un prédicateur dans la rue vous appelle et vous dit quelque chose, le souci de nouveauté qui vous bouscule, vous devez rapidement appeler votre pasteur, dire « voilà ce qu'on m'a appris » et vous discutez. La parole de Dieu, n'est-ce pas, ça se discute. On la lit, on s'aide à la comprendre. Vous pouvez même dire à votre, au prédicateur privé, dites « est-ce que frère, nous pouvons aller rencontrer mon pasteur ?» S'il est un bon prédicateur, il va vous dire « allons-y ». S'il n'est pas bon, il va vous dire « non, je ne vais pas, il ne va pas croire ». Non, qui vous a dit qu'il ne va pas croire? Pourquoi frère? Parce que si en tant que nous évoluons ensemble, vous vous amenez une autre doctrine qui n'est pas la doctrine que nous nous confessons, c'est bien clair que nous finirons par nous séparer. Ce qui n'est pas bon, ce que Dieu n'approuve pas. Parce que le jour où vous entendrez une prédication sur ce que vous, vous n'approuvez pas, vous allez dire que non, non, dans cette église, on prêche des choses qui ne sont pas bibliques, des choses que je n'approuve pas. C'est alors sage, lorsque vous arrivez dans une église, de commencer par chercher la confession des foi pour poser des questions. Frère, en quoi vous croyez? Il y a beaucoup de choses que je peux dire à ce sujet, mais je laisse le Saint-Esprit vous parler. Il y a à Kinshasa un homme de Dieu qui prie. Quand il prie sur les femmes crachent les crapauds. Vous, vous allez là-bas, vous crachez les crapauds. Vous arrivez ici, mais dans cette église, on ne crache pas les crapauds. C'est qu'il n'y a pas de Saint-Esprit. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui quittent des églises, qui voyagent d'église en église à la recherche du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas loin, il est en vous, frère. Amen. Dieu n'est pas loin, Dieu est au milieu de vous.
Amen.
S'il y a des gens qui sont encore, qui ont des questions à se poser, nous, nous sommes témoins de la puissante main de Dieu au milieu de nous, jour après jour. La Bible dit que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais si vous, vous continuez à chercher, toujours à chercher, mais cela prouve que vous n'avez pas encore trouvé. Arrêtez-vous un peu pour dire pourquoi vous ne trouvez pas. Soit vous cherchez mal, soit vous ne cherchez pas du tout. Donc c'est très important, frères et sœurs bien-aimés, que nous puissions vraiment, vraiment, vraiment avoir la même confession de foi, croire en la même chose, et ainsi nous serons capables de préserver l'unité que Dieu veut vraiment avoir au milieu de nous. Regardez l'exemple de Paul dans l'épître aux Galates. La Bible nous dit que lorsque Paul a fait le ministère dans la ville, dans les églises de Galates, dans les églises de Galatie, il est parti et il y a des prédicateurs qui sont venus de Judée, qui ont apporté un évangile différent de celui que Paul avait prêché. Paul a prêché l'évangile de la grâce. Lorsque ses frères arrivent, ils disent « Oui, la grâce c'est bien ». Mais il faut ajouter des œuvres pour que la grâce puisse devenir effective dans votre vie. C'est-à-dire, il faut encore observer la loi de Moïse plus la grâce de Jésus-Christ. Et les chrétiens ont commencé à tergiverser. Lorsque Paul attend ces choses, vous pouvez le lire dans Galates chapitre 1er, il revient avec une réaction vigoureuse. Il dit même aux Galates, qui vous a ensorcelé? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Et il dit même, si quelqu'un d'autre vient vous apporter un évangile autre que celui que nous avons annoncé, qu'il soit maudit. Pour dire que Paul a été complètement bouleversé de ce que ses frères et ses sœurs, après avoir accueilli l'évangile du salut, ils ont commencé à ajouter d'autres doctrines qui entraient en contradiction avec le message que l'homme de Dieu avait prêché. Et cette réaction de Paul nous indique clairement qu'il est difficile, frère, de conserver l'unité de l'Église si nous ne marchons pas dans les mêmes croyances. Alors, je vous encourage, mon frère, ma soeur, à tout faire, à poser des questions pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui est enseigné dans votre Église. Et ce que nous enseignons ici, nous enseignons seulement la Bible et nous faisons un effort avec l'aide du Saint-Esprit de vous la communiquer comme elle l'est. Mais la Bible dit que la grâce de Dieu est donnée à chacun selon que l'Esprit a voulu. Et vous n'allez pas à tergiverser à gauche, à droite. Non, non. Marchons ensemble, ayons la même foi, ayons les mêmes croyances. Et aussi, la troisième chose que j'aimerais souligner, c'est que l'unité, la loi de l'unité au sein de l'église locale implique aussi l'unité de langage. Lorsqu'il y a l'unité de l'esprit, lorsqu'il y a l'unité de la foi, eh bien, le langage va refléter cette unité. C'est-à-dire, nous allons parler de manière à ce que nous rejoignons ce que notre esprit a reçu du Saint-Esprit et nous rejoignons ce que notre esprit croit, c'est-à-dire notre foi. La Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, si déjà notre cœur est rempli du Saint-Esprit de Dieu, lorsque nous allons parler, notre langage va refléter que nous avons accepté le Saint-Esprit. Mais vous observerez par contre que lorsque le cœur d'une personne est rempli de l'esprit d'impudicité, par exemple, dès qu'il ouvre la bouche, rassurez-vous, vous n'avez pas à demander le Saint-Esprit. Vous allez voir que les paroles qui sortent de sa bouche, même les blagues qu'il lui donne, ça va toujours être des blagues qui ont trait à des insanités. Donc, vous n'avez pas à lui demander, frère, quel type de vie vous vous menez. Lorsque vous avez un homme qui vient, quand il vous parle, frère, vous parlez, oh, mais écoutez, ben, j'ai été là-bas, tel ami là, il a trompé sa femme, tel autre là-bas, il a trompé sa femme, tel autre là-bas. Mais comment se fait-il que vous n'avez que des exemples, tel a trompé, tel a trompé, tel a trompé? C'est que dans votre cœur, il y a quelque chose qui vient soutenir ce que votre bouche est en train de libérer. Donc c'est très très important que nous puissions avoir le même langage qui est le langage de la foi, le langage de l'esprit. Quand nous nous ouvrons la bouche, nous disons Jésus-Christ est Seigneur. Lorsque nous faisons affaire à un malade, nous allons dire malade tu vas guérir. Quand pasteur Hubert passe, il dit que malade tu vas guérir. Quand ancien Javier passe, il dit malade tu vas guérir. Mais ce n'est pas que l'autre dit malade tu vas guérir. Ça tu arrives à dire oh, dans cet état là c'est difficile. Non, nous n'avons pas parlé le même langage, frère. Mais si un homme entre ici avec un problème, même s'il est possédé, même s'il est un païen, tout le monde qui passe lui parle un langage d'amour. Oh frère, Dieu t'aime, sois béni. Notre Dieu est capable de te sortir de cette condition. L'autre passe, frère, sois béni. Notre Dieu est capable. Cet homme-là, même s'il se sent complètement rejeté, par le langage d'encouragement que tous prononcent, il peut se tenir debout et marcher. Amen. Mais si vous vous arrivez, frère, Dieu va te bénir, tu vas sortir de là. L'autre vient, hé, hey, toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Hé, hey, mais toi, ton manteau est sale. Vous comprenez que nous ne puissions pas notre discours de la même source. C'est très, très important. Et lorsqu'on parle le langage de l'esprit, lorsqu'on parle le langage de la foi, dans ce langage, on ne trouvera pas des propos qui vont démolir mon frère, qui vont démolir ma sœur. Beaucoup d'églises sont divisées aujourd'hui à cause tout simplement de la langue. Nous devons contrôler ce que nous disons, frère, si nous voulons garder l'unité au sein de l'église. Quand je n'ai rien à dire, c'est préférable pour moi de me taire. Même lorsque ça me fait mal dans le cœur, je me tais tout simplement. Si une sœur a un problème, un frère a un problème, c'est son problème. Ce que moi je peux faire pour aider cette sœur-là, c'est de plier mes genoux devant Dieu, intercéder, Seigneur, ma sœur X a tel problème, est-ce que tu peux l'aider à s'en sortir? Mais en parlant d'elle, en parlant de lui, en prenant le téléphone à travers toute la ville, ah, tu sais, j'ai vu sur Facebook, j'ai vu là-bas au téléphone, et aussi c'est cela. C'est bien frère, c'est bien. Mais après, qu'est-ce que cela va produire? Nous, en tant qu'enfants du royaume, Surtout, lorsqu'on vient, on devient le messager des mauvaises nouvelles. Vous savez, frère, quand c'est une mauvaise nouvelle, n'est-ce pas? Évitez même d'en parler. Évitez même que votre bouche puisse la libérer. Même si quelqu'un vous pose la question, cette nouvelle-là n'est pas bonne pour moi, elle n'est pas bonne pour ma bouche, elle n'est même pas non plus bonne pour mes oreilles. Et lorsque nous aurons discipliné notre langue, lorsque nous aurons fait preuve de l'unité de langage, frères et sœurs bien-aimés, nous allons contribuer à développer l'unité au sein de l'église. Dieu veut nous voir marcher dans l'unité. Mais il y a certaines choses que nous devons savoir. Regardez le cas de Pierre, que vous connaissez vous tous. Pierre a été impacté par le message de Jésus-Christ. Vous savez, lorsque vous êtes impacté par le message de Jésus-Christ, impacté par l'esprit de Jésus-Christ, votre langage va le prouver. Votre langage va le prouver. Si vous avez une vie de prière, n'est-ce pas, votre langage va le prouver. Même si quelque chose vous arrive, au hasard, vous allez prier, oh Seigneur! Mais lorsque même un petit chien passe, vous dites, hey, maman! Hein? On comprend que vous avez fondé votre espoir sur maman. Est-ce que quelqu'un peut donner une main d'acclamation à Jésus? Important, frère, que nous puissions développer un langage commun qui est langage de la foi. Et c'est ce langage qui va nous permettre de garder l'esprit d'unité au milieu de nous. La quatrième chose, c'est que la loi de l'unité implique enfin le travail d'équipe. Nous avons parlé de l'unité spirituelle. Nous avons parlé de l'unité de la foi. Nous avons parlé de l'unité du langage. Et maintenant, l'aboutissement, c'est le travail d'équipe. Ou l'unité dans l'exercice du ministère. Je suis conscient que chacun de nous porte en lui un rêve pour cette église. Je suis très conscient. Je suis conscient que chacun de nous porte un rêve, ou le rêve de voir un jour l'Arche de Dieu devenir une église de plus de milliers d'âmes. Le rêve de voir un jour la chorale, la gloire de Dieu, aligner 50 mamans ici qui chantent en chœur pour célébrer la gloire de l'agneau de Dieu immolé. Le rêve de voir un jour la chorale des jeunes impacter toute la ville de Montréal. Le rêve de voir un jour des miracles extraordinaires se réaliser en ces milieux, mais des vrais miracles qui viennent de Dieu, comme ceux que nous avons déjà vécu. Je sais que chacun de nous a ce rêve. Je sais que chacun de nous a des rêves de voir, même parmi nos jeunes, les saints devenir des pasteurs, les jeunes envahir Montréal, proclamer à haute voix que Jésus-Christ est le Seigneur du ciel et de la terre. Je sais que nous avons tous ce rêve. Le monde a besoin de ça aujourd'hui. Mais il n'est un secret pour personne. Et c'est ce que j'essaie de vous démontrer depuis dimanche passé. Que lorsque les gens agissent ensemble, lorsque les gens travaillent ensemble, lorsque les gens prient ensemble, lorsque les gens baptisent ensemble, les résultats sont souvent, sinon toujours, extraordinaires. Alors, si nous voulons que nos rêves deviennent une réalité et que Dieu réalise des choses extraordinaires au milieu de nous, nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est de nous tenir main dans la main et travailler dans l'unité. Salomon avait bien compris ces choses lorsqu'il dit dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 9, que deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. En d'autres termes, deux hommes valent mieux qu'un seul. À deux, ils obtiennent un meilleur résultat de leur travail. Je dis que Salomon a bien compris ça. Quand il a bien compris ça, il vous encourage en disant, frère, si vous travaillez à l'équipe, le résultat que vous allez obtenir va être supérieur à la somme du résultat que chacun de vous obtiendrait indépendamment. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que nous sommes à cinq. Pasteur Badi, Pasteur Hubert, Pasteur James, Papa Janvier, Guy Posé. Nous travaillons ensemble. Le résultat que nous allons obtenir par notre travail va être supérieur à la somme du résultat de Guy Posé plus Papa Janvier plus Papa James plus Papa Hubert plus moi. Si Guy Posé a eu 1, 2, 3, 4, 5, mais ensemble nous allons produire quasiment 10. Donc, Salomon nous encourage ici à travailler dans l'unité parce que nous allons beaucoup produire. Je vais vous donner un exemple que j'ai déjà donné ici, je pense bien. Un frère a prêché un jour et il a donné cette illustration qui m'avait beaucoup intéressé. Il a dit qu'un homme a eu une vision. Dans sa vision, il est entré dans une première ville. Il a découvert que il y avait des repas dans de gros tonneaux, dans de gros fûts, la nourriture là-bas, en masse. Mais les gens de toute la ville étaient tous maigres, tous maigres. Il est allé dans une autre ville, il a découvert qu'il y avait encore des tonneaux semblables, avec la même nourriture, mais les gens étaient en très bonne santé. Il a alors observé comment est-ce que ces gens vivaient. Il s'est aperçu que on avait donné à ces gens, et c'était une obligation, des longues fourchettes comme des pelles. Alors, lorsque dans la ville des gens maigres, lorsqu'il était temps de manger, ils amenaient leurs pelles chacun cherchait à prendre le repas avec la pelle. Mais pour le ramener jusqu'à la bouche, tout s'est renversé et quasiment ils ne mangeaient pas. C'est ce qui fait qu'ils étaient tous maigres alors qu'ils avaient des fûts de nourriture. Mais il a observé ce qui était en bonne santé dans notre ville. Il a découvert qu'ils avaient aussi de longues fourchettes de pelle. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient, eux? Badi prend le riz, le repas ici, et il donne à Hubert. Hubert mange. Hubert prend, il donne à James. James prend, il donne à Léopold. C'est que ces gens se nourrissaient, puisque la pelle ne pouvait pas convenir pour se nourrir soi-même. Et ils mangeaient bien, et ils étaient tous gras. Est-ce que quelqu'un comprend cette illustration? Frères, sœurs, nous voulons devenir grands. Nous pouvons devenir grands, mes amis. Nous voulons réaliser beaucoup de choses. Nous pouvons réaliser beaucoup de choses. Mais le secret se trouve que l'ami qui est à côté de vous là, vous devez le regarder comme un associé, comme un partenaire dans la réalisation de la vision que Dieu a donnée. Il y a unité de travail. Lorsque dans une communauté, tout le monde s'engage à faire quelque chose qui est utile et qui contribue à la réalisation de la vision de cette communauté. Je dis bien, tout le monde s'engage. On ne peut pas parler du travail d'équipe ou de l'unité dans le travail s'il y en a qui s'assoient et ne font rien alors que les autres sont en train de s'essouffler. Non. En d'autres termes, je veux vous dire, mon frère, ma soeur, si vous ne faites rien dans votre communauté, la Bible dit que celui qui n'assemble pas avec nous, qu'est-ce qu'il fait? Il disperse. Donc, c'est que si vous ne rassemblez pas avec vos frères, vous êtes en train de faire le ministère de la dispersion. Et je puis dire plus loin, si votre communauté n'avance pas, soyons objectifs, sincères et honnêtes. Si la communauté n'avance pas, dites, moi, j'ai ma part de responsabilité. Et quelle est ma part de responsabilité? C'est parce que moi, je ne fais rien. David a dit que, voici, oh, qu'il est doux. Voici qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête des saints, sur la barbe d'Aaron. Descend sur les pans de sa robe. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Descend, elle couvre toute la montagne, elle descend jusqu'en Sion. Et la Bible termine, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Le mot demeurer ici dit beaucoup de choses, puisqu'on ne peut pas demeurer ensemble seulement pour se regarder dans les yeux et cela va plaire à Dieu. Non. Le mot demeurer ici implique vivre ensemble, implique travailler ensemble, implique manger ensemble, implique marcher ensemble. Ce qui revient à dire que c'est une excellente chose aux yeux de notre Dieu que les frères et les sœurs vivent dans l'unité. C'est une excellente chose aux yeux de notre Dieu que les frères et les sœurs travaillent dans l'unité, main dans la main. C'est une excellente chose pour notre Dieu que les frères et les sœurs prient ensemble, main dans la main. J'aime bien lorsque j'ai lu les prières des actes des apôtres. La Bible dit qu'ensemble, ils ont élevé la voix vers le ciel. Ils ont prié et le lieu où ils étaient a tremblé. Oui, frères et sœurs. La prière, c'est un élément fondamental dans la dynamique de l'Église. Je sais que vous priez seul, individuellement. Tout le monde est capable de prier individuellement. Mais il y a des prières individuelles, il y a des prières d'ensemble. Lorsque nous aimerions appuyer sur l'esprit d'unité au sein de l'Église, il est absolument important qu'à un moment donné, on se tient ensemble main dans la main, on élève vers le trône de Dieu une prière d'ensemble, et cette prière a des effets extraordinaires. Voilà pourquoi David, qui a bien compris ces choses, nous encourage à demeurer ensemble, c'est-à-dire nous encourage à travailler ensemble. Et moi aussi, je vous encourage aujourd'hui à vous engager à travailler dans votre communauté, à vous engager à travailler en équipe avec vos frères et vos sœurs. Et il y a plusieurs passages dans la Bible qui vantent le mérite du travail d'ensemble. Le premier passage que je vais vous expliquer, c'est celui que nous trouvons dans Genèse chapitre 11. Le passage qui nous parle des gens de la génération des tours de Babel. Lorsque vous lisez ce passage, vous allez découvrir que ces gens étaient des hommes ordinaires comme vous et moi. Mais ces hommes ont monté un projet très ambitieux. Ce projet consistait à construire, et ils sont ici à l'époque préhistorique, il n'y avait pas de tracteurs. Mais ils ont décidé de construire une tour qui devrait, dont le sommet allait toucher le ciel. Mais lorsqu'ils se sont mis ensemble, la Bible dit que le travail avançait jusqu'au moment où c'est le ciel qui est venu mettre fin à leur travail. Voilà que ces gens, à cause de leur unité, ils ont été capables de réaliser une œuvre qui allait même étonner le ciel. Vous vous souvenez, lorsque vous regardez les pyramides qui sont en Égypte, jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques se posent des questions pour savoir qu'est-ce qu'on a fait. Il n'y avait pas de tracteur fait. Mais qu'est-ce que ces gens ont fait pour construire ces pyramides? Il n'y a que ceux qui savent. Mais vous comprendrez que il était la question d'un travail d'équipe à un niveau élevé. Le deuxième texte, le texte que nous trouvons dans le livre de Néhémie, vous pouvez le lire à partir du troisième chapitre de Néhémie. Vous allez découvrir que lorsque Néhémie est revenu pour la reconstruction de la muraille de Jérusalem, tout le monde s'est mis au travail. Et j'aime toujours le verset le verset 1, je suis sur le verset 1 du chapitre 3, quand Néhémie dit que Eliashib, le souverain sacrificateur, il s'est tenu debout avec ses frères, les sacrificateurs. C'est-à-dire que tout le monde, lorsque vous lisez ce texte qui est parfois pas du tout très très bien à lire, parce qu'il y a parfois des noms compliqués à prononcer à chaque instant, vous allez découvrir que c'est au fond, c'est un texte très très bien qui nous enseigne comment nous devons travailler en équipe. Chapitre 3, Néhémie. Eliashib, le souverain sacrificateur, s'éleva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils consacrèrent depuis la tour de Meïa jusqu'à la tour de Ananaël. À côté d'Eliashib, bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui aussi, bâtit Zakur, fils d'Umri. Les fils de Sénat bâtirent la porte des poissons. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous. À côté d'eux, travaillaient aux réparations. À côté d'eux, travailla Melusha. Vous allez lire tous les textes. À côté d'eux, à côté d'eux, à côté d'eux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tous les enfants d'Israël étaient au travail. Chacun travaillait dans une portion. Ça nous donne une leçon importante que dans le travail d'équipe, non? Il y a travail d'équipe lorsque chacun de nous se consacre à une portion de travail. Tel que nous sommes là à l'église, quand nous disons travail d'équipe, ce n'est pas que nous tous nous allons chanter, non. Travail d'équipe, il y en a qui chantent, il y en a qui torchonnent, il y en a qui évangélisent, il y en a qui gardent les enfants, il y en a qui filment, mais nous tous, nous avons quelque chose à faire et cela permet que nous puissions recevoir les bénédictions de Dieu en masse. Vous avez un autre texte que Paul utilise, je dois l'avoir touché dimanche passé, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12. Paul lui donne la métaphore du corps humain pour parler du travail d'équipe au sein d'une église locale. Il compare tous les fidèles aux différents organes du corps. Or, lorsque vous rentrez dans le corps, chaque organe est important. Je m'arrête là pour vous dire que, frère, vous êtes important. Ce qui empêche certaines personnes à travailler, c'est parce qu'elles s'imaginent que moi, je ne suis pas important. Qu'est-ce que je vais faire? Non, même votre 1 $ que vous avez, vous allez donner, est très important. Je vous ai raconté un jour comment je suis rentré furieux chez moi à la maison parce qu'une dame a refusé de me donner un article dans son dépanneur. L'article coûtait presque 13 pièces et il me manquait, si c'est 15 sous. Elle m'a dit non, je ne te donne pas. Et j'étais obligé de rentrer à la maison sous le froid, très furieux. Pourquoi? Parce que je manquais 15 sous. C'est que ces 15 sous-là ont été tellement importants que, en les manquant, j'ai raté d'acheter l'article. Mais vous savez que si à ce moment-là précis, quelqu'un me donnait 15 sous, il devrait être pour moi un ange. Donc, ne vous minimisez pas, parce que même tout ce que vous avez, tout ce que vous savez, Le peu que vous connaissez là, c'est utile pour construire la communauté ensemble. Le peu que vous donnez là, c'est utile, frère. Parfois, les gens se minimisent. Non. Regardez bien l'exemple du corps. J'ai déjà donné un exemple des ongles ici. Vous savez, lorsque un moustique ne vous a pas piqué, les ongles ne vous servent à rien. D'ailleurs, vous les coupez, vous jetez à la poubelle. Mais attendez une minute, dès qu'une mouche vous pique sur le dos, paf, vous n'allez pas utiliser l'œil pour vous gratter. Là, vous savez que non, j'ai les ongles et les ongles sont importants. C'est vite avec les ongles. Chaque élément dans le corps est important, frère. Chaque élément dans le corps est important. Tel que vous êtes là, vous êtes très important pour la dynamique de l'Église, pour la vie de l'Église. Chacun, lorsqu'il comprend ces choses et se met au travail, qu'est-ce que moi je fais? Le peu que je fais là, le peu que je fais là, redonne la santé à ma communauté. Frères et sœurs, ça va permettre que la bénédiction de Dieu descende sur nous et que nous puissions vraiment réaliser des grandes choses. Et un autre élément à souligner, c'est que dans le travail d'équipe, il faut aussi travailler en synchronie. En synchronie, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi, je fais ce que je fais, mais je laisse mon frère faire ce qu'il fait, mais nous regardons nous tous dans la même direction. Parfois, il y a un malaise qui est créé dans le travail d'équipe, surtout au milieu de l'Église, lorsque certains frères ou certaines sœurs s'improvisent des inspecteurs de ce que les autres font. Ça crée le malaise. Vous voyez, Dieu vous a établi peut-être pour que vous puissiez être choriste, chanter, point d'entrée. Mais pendant que vous chantez, vous regardez la personne qui balaye. Oh, tu n'as pas bien balayé ici. Non, ça frustre l'autre personne et ça peut même l'amener à abandonner son travail. C'est ce qui fait qu'on a beaucoup insisté lors de notre réveillon sur le professionnalisme. Le diacre Alain est revenu ça à la suite du pasteur Paddy, le professionnalisme. Mais quand est-ce qu'on parle du professionnalisme? On parle du professionnalisme lorsque chacun se spécialise dans un domaine de travail et il se concentre à ce domaine. D'ailleurs, il va mieux produire que s'il est un touche-à-tout, il est partout. J'ai beaucoup aimé le Canada lorsque je suis arrivé au Canada. Vous appelez à l'assurance maladie. Eh bien, ma carte est terminée. La personne vous dit que non, ce n'est pas moi qui m'occupe des cartes d'assurance maladie. Mais qui s'occupe de ça? Non, c'est mon voisin, il n'est pas là. Mais est-ce que toi, tu ne peux pas regarder? Non, ce n'est pas mon travail. Est-ce qu'il ne le sait pas? Il le sait bien. Mais pourquoi il se limite à sa tâche? Limitons-nous à nos tâches, frères et sœurs. Limitons-nous vraiment à nos tâches. La Bible dit que celui qui a le ministère, ça donne à son ministère. Celui qui exhorte, ça donne à l'exhortation. Et là, nous allons effectivement développer le professionnalisme. Vous chantez, concentrez-vous sur la chanson. Vous prêchez, concentrez-vous sur la prédication. Vous priez, concentrez-vous sur la prière. Laissez les autres. Ils vont s'occuper de ce qu'ils font. Et il y a un leader que Dieu a placé qui pourra lui regarder ce que les autres font. Ne quittez pas votre ministère pour aller donner des ordres à celui qui est dans un autre ministère, alors que vous avez votre travail à faire. Pendant que vous allez donner des ordres là, qui fait votre travail? Vous risquez de laisser votre poste vraiment, vraiment vide. Bien, pour conclure, je veux vous dire que la foi chrétienne, comme ce que je vous ai dit le premier jour, n'a pas la vocation de se vivre en solo. La foi chrétienne doit se vivre en communauté. Et cette vocation de vivre notre foi en communauté tire sa source de la nature même de l'homme. Parce qu'au commencement, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et même aujourd'hui encore, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et si tu veux réaliser la vision de Dieu dans ta vie, il est impératif que tu puisses t'associer à tes frères, que tu puisses t'associer à tes sœurs et qu'ensemble nous puissions travailler pour la réalisation d'une seule et même vision en regardant dans la même direction. Proverbe 18:1 dit que celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Dans notre version, on dit celui qui se tient à l'écart cherche son intérêt. Ne vous faites pas soupçonner. Lorsque tout le monde travaille, vous vous mettez à l'écart, nous risquons de vous soupçonner que vous avez d'autres intérêts qui ne sont pas nos intérêts. Bref, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions nous tenir nous tous debout, main dans la main, que nous puissions travailler ensemble et il va réaliser de grandes choses avec nous. Nous nous tenons debout et nous clôturons ce moment de prière. Que notre Dieu vous bénisse.